Bonjour Alain.
Bonjour, bonjour. Bon, Baraton qui aime bien donner le prix effectivement des ouvrages. Je crois que c'est important quand on achète un livre de savoir si on est dans la catégorie livre d'art ou livre, j'allais dire, accessible et à la portée de tous.
C'est une information aussi.
Et importante.
On parle de l'Amamélis ce matin et vous mettrez deux M à Amamélis. Cette plante est originaire de Virginie.
Et vous avez raison de préciser, ne pas confondre l'Amamélis et la mélisse. Rien à voir, bien
Amamélis.
Là, nous parlons bien de l'Amamélis, mais il est aussi bon de préciser qu'il en existe plusieurs variétés, comme l'Amamélis japonica, qui est logique originaire du Japon, ou l'Amamélis mollis, originaire de Chine. L'Amamélis, donc, de Virginie, est un très très bel arbuste qui peut atteindre 5 mètres de hauteur, et il est apprécié en septembre-octobre pour ses fleurs jaunes, oui j'ai bien dit, septembre-octobre, il fleurit tardivement, et oui, qui produisent une odeur délicate de miel, et pour un feuillage qui prend ensuite des superbes teintes orangées.
Et les fruits de l'Amamélis ne manquent pas d'intérêt non plus.
Ils ressemblent à des petites capsules qui, à maturité, éclatent pour disperser les graines. Si vous êtes assis au pied de l'arbuste et si vous avez une bonne oreille, vous pouvez entendre le claquement des petits fruits. Il n'y a pas de quoi sauter par les fenêtres, mais honnêtement, c'est assez amusant, on l'entend comme des petites explosions, c'est drôle.
Alors l'Amamélis, pourquoi évoquer cette plante aujourd'hui?
Oui, comme vous le constatez, je fais en sorte de coller mes chroniques toujours à l'actualité. Parce que je me rappelais qu'il y a quelques jours, jeudi dernier je crois, l'on fêtait Halloween. Et tous ceux qui célèbrent Halloween devraient connaître l'Amamélis qui était vénérée par les sorciers amérindiens. C'est avec l'écorce de l'Amamélis que l'on brûlait pour éloigner, par exemple, les démons. C'est cette même écorce qui, en infusion avec les feuilles, permettait aux Iroquois et aux Cherokees de combattre les fièvres, l'asthme, les petites plaies et même de purifier leur organisme. Les nouveaux arrivants, là je parle des colons, étaient eux-mêmes impressionnés par les qualités médicinales de la plante. Ils lui trouvaient des propriétés magiques. C'est avec les tiges d'Amamélis que les sourciers procédaient pour trouver de l'eau.
Et depuis quand cet arbuste Amamélis est-il présent dans nos jardins européens?
Depuis très exactement l'année 1736, date de son introduction en Europe. En Normandie, il y a un homme d'église, qui découvre la plante. Il trouve que cet arbuste a beaucoup de beauté et de qualité. Et lui aussi est persuadé que ce végétal possède dans son bois et sa sève de quoi soigner ceux qui, en particulier, souffrent des troubles de la circulation sanguine. Nous sommes en 1745 et ce prêtre vient d'inventer la tisane des deux abbés, célèbre dans le monde entier sous le nom de Jouvence de l'abbé Souris. Alors, il continue, c'est assez incroyable, j'ai vérifié, de s'en vendre chaque année 2 millions de boîtes, c'est considérable, même si les autorités médicales françaises émettent de sérieux doutes sur son efficacité. Mais comme quoi, c'est assez amusant qu'à plusieurs siècles d'intervalle, deux peuples qui ne se connaissaient pas ont trouvé dans le même végétal, de quoi sauver les problèmes de l'humanité. J'aime bien, moi, quand les hommes communiquent.
Et on le sait aujourd'hui grâce à Alain Baraton. Vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter, Alain Baraton. Colline voudrait vous parler à la fois de son oranger du Mexique, de son abélia, de son céanote. Toutes ces plantes sont mortes en dépit d'un repotage, en dépit d'un arrosage normal. Elle vous demande pourquoi.
Je vais reprendre mon discours à peu près habituel qui consiste à rappeler que les végétaux sont des êtres vivants. Lorsque vous rempotez un arbuste, il faut se souvenir qu'il a besoin d'une terre qui lui convienne, d'une exposition qui lui convienne, d'un arrosage qui lui convienne, etc., etc. Si, par exemple, vous rempotez trop tardivement au printemps dans des pots les végétaux que vous venez de citer, pour peu que nous soyons en période caniculaire, même si vous arrosez, les plantes souffrent de l'excès de chaleur et peuvent très bien ne pas survivre. Donc, à partir du moment où plusieurs végétaux qui ne sont pas la même famille, qui n'ont pas de point commun, ne survivent pas à vos gestes qui semblent appropriés, c'est certainement un problème commun, à savoir des problèmes de canicule.
Des plantes qui n'aiment pas le stress, évidemment.
Tout à fait. Oui, parce qu'il est quand même bon de rappeler que quand il y a une très grande chaleur, une très grande canicule, les pores du feuillage se ferment. Vous avez beau mettre beaucoup d'eau, la plante s'est mise en situation, j'allais dire, blocage, et rien n'y fera. C'est la raison pour laquelle, regardez bien, même en ce moment, le nombre de conifères qui meurent dans les montagnes, même en plaine, regardez bien les hêtres au nord de la Loire, regardez bien les bouleaux, les dégâts sont considérables, et voilà le problème du réchauffement climatique, les plantes n'ont pas le temps de s'adapter, on va vers certainement une catastrophe.
Ambroise vous demande si vous pouvez lui indiquer le nom de quelques plantes grimpantes fleuries pour cacher un mur et que l'on puisse planter évidemment encore en cette saison novembre.
Alors toutes les plantes grimpantes peuvent se planter maintenant, c'est pas compliqué. tous les végétaux peuvent se planter. Maintenant, je dis toujours qu'il faut peut-être attendre un petit peu pour les plantes dites de terre de bruyère. Les racines sont fragiles et il est préférable de les planter au printemps. Cette plantation tardive favorise leur cicatrisation. Les plantes grimpantes, c'est quoi? Ce sont des chèvrefeuilles, c'est de la glycine, ce sont ces clématites merveilleuses, ce sont pas des fleurs, ce sont des soleils. Vous avez quantité de végétaux qui, en association, peuvent donner de grands résultats. Le mieux, c'est de pas donner forcément de lys, c'est pas dire que telle ou telle plante va absorber l'autre, ce n'est pas dire que la petite bignonne risque de souffrir du rosier Pierre de Ronsard. C'est de les mettre ensemble et puis de laisser voir ce qui se passe. Souvent, on a de belles surprises.
Meriem voudrait vous parler de son figuier. Dans un petit jardin, un figuier entre deux grands murs, quand puis-je le tailler en hauteur?
Et pourquoi le tailler en hauteur? Il est bloqué entre deux murs, que cherche-t-il? La lumière, bien évidemment.
Il monte.
Donc, vous avez tout compris. Si en plus vous le taillez pour empêcher de monter, il va mourir. Donc un figuier entre deux murs ne doit pas être taillé.
Bernard, comment éradiquer de faux poivriers qui prolifèrent à foison dans le cimetière chrétien de Rabat? Donc c'est un auditeur du Maroc. Comment détruire les souches des arbres tronçonnés?
Il n'y a pas de secret, il faut couper les arbres encore. Est-il judicieux de le faire? Je n'en suis pas sûr, mais il n'y a pas d'autre méthode pour se débarrasser d'un arbre que de le couper et ensuite d'arracher la souche. Mais dans un cimetière, il y a bien sûr des protections, des réserves à avoir et beaucoup de respect pour les sépultures autour.
Et c'est de circonstance en ce week-end de Toussaint. Un dernier conseil.
Champignons, aquarelles d'Hélicotro. Hélicotro, c'était un type passionnant qui a fait des aquarelles absolument extraordinaires. C'est publié par entre art et science. Le titre exact, Champignons, aquarelles d'Hélicotro. Entre art et science, c'est merveilleux. Et oui, Madame Martin, ça coûte 40 euros.
Merci, Monsieur Baraton.
Merci, Monsieur Baraton.